Mardi 1er et mercredi 2 décembre, Benjamin Dupé propose au Merlan comme je l'entends. Un objet sonore curieux qui est à la fois un concert, une réflexion sur la musique contemporaine et sa perception par le ou les publics, le tout nourri par un atelier avec des spectateurs du Merlan. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va peut-être tout reprendre dans l'ordre. D'abord, dire que tu es musicien, formé au conservatoire, pour ensuite te consacrer à la création musicale. Alors, quelques mots sur ton univers musical, tes influences, tes références. C'est qui ou c'est quoi ?
Alors, c'est toujours difficile de faire comme ça, brûle pour point, une liste des influences. Ce qui est sûr, c'est que dans mon parcours, j'ai commencé par travailler la musique classique, ce qu'on appelle la musique classique, et puis son extension d'aujourd'hui, la musique contemporaine, dite avec un affreux mot, musique savante. Donc c'est sûr que c'est des influences qui m'ont nourri. Je pense à Feldman, je pense à Berlioz, voilà, des gens comme ça. Et puis, parallèlement, j'ai fait une rencontre assez décisive au Conservatoire de Paris avec quelqu'un qui s'appelle Alain Savouret et qui était venu au Conservatoire inventer une classe. C'est comme ça qu'il le disait. On ne savait même pas quelle était la discipline qu'il allait enseigner. Mais il savait, en arrivant au Conservatoire, et c'était à cette époque-là que je l'ai rencontré, que ça allait être quelque chose de transversal, donc qui allait rassembler à la fois les compositeurs et les interprètes. Peut-être les musiciens dits de la musique classique et les musiciens du jazz. Et puis peut-être, pourquoi pas, les danseurs qui traînaient aussi au conservatoire et qui avaient envie d'expérience. Voilà.
Alors justement, ça c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de ton travail, c'est un goût d'aller volontiers en dehors des formes musicales classiques ou contemporaines. C'est d'aller vers la danse, c'est d'aller vers d'autres formes de représentation. Qu'est-ce qui nourrit ton envie comme ça de porter le geste musical vers d'autres formes d'art ?
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a déjà quelque chose qui vient de la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience, en ce qui concerne ma pratique musicale, qu'elle n'était pas simplement musique. C'est-à-dire que quand j'étais sur scène, j'avais envie d'exploiter aussi l'énergie communicative qu'il y a à être face à un public ou avec d'autres partenaires de jeu, qu'ils soient musiciens ou acteurs ou danseurs. J'écris une musique aussi que je considère comme assez organique et assez dramaturgique. C'est, j'aime bien la matière qu'on pétrit, mais aussi le geste, aussi le dynamisme, aussi l'onde de choc, ou alors la caresse. Enfin, j'aime bien dans la forme guider entre guillemets l'auditeur, enfin en tout cas lui proposer un monde dans lequel il peut se faire un parcours. Donc c'est pour ça que je parle de dramaturgie, c'est qu'il y a souvent une grande attention portée à qu'est-ce que raconte globalement ma musique à ce moment-là et pourquoi ça change ici et comment ça change et est-ce que c'est une surprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que naturellement c'était assez évident, suivant les projets, de travailler, pourquoi pas, avec des comédiens pour de la narration ou du texte, ou juste du corps et de la situation théâtrale, ou avec des danseurs, comme j'ai pu le faire à Marseille avec Thierry Nyang sur plusieurs projets. Donc voilà, ça c'est la raison, vraiment, mais qui part de la musique. J'aime bien considérer que le spectacle musical, qui est pas le mot encore idéal, mais j'ai toujours pas trouvé. Enfin, en tout cas, cette idée de penser la création musicale dans quelque chose de plus large que le concert, c'est une envie de musicien. C'est-à-dire que c'est considérer tous les autres paramètres, à l'exception du son, que ce soit le mot, que ce soit le geste, l'espace, le corps, la lumière, l'image, la situation de jeu, comme des touches d'un espèce de grand instrument et avec lequel finalement on peut aussi écrire. Voilà, c'est l'idée de jouer d'un instrument. Et jouer est très important. Et c'est pas l'œuvre d'art totale, dans le sens que pour moi, ça doit rester la musique qui est le centre et le guide, parce que c'est ça qui permet de trouver d'autres chemins. Je pense qu'on a trouvé beaucoup de chemins en partant du théâtre, en partant de la danse, en partant vraiment de la musique. Certains, mais c'est pas la majorité des compositeurs, s'y sont essayés, avec bonheur ou pas, mais je pense que tout n'a pas été fait là-dedans. Quand j'attaque ma corde de guitare, pourquoi est-ce que la limite ce serait la corde de guitare? Et pourquoi, voilà, finalement ça me fait rire quelque part qu'au même moment quelque chose se passe, ou quelque chose ne se passe pas justement, voilà.
Comprend mieux pourquoi ce spectacle est ouvert à un très large public à partir de 14 ans. Enfin, j'imagine que peut-être même des enfants un peu plus jeunes que ça pourraient venir s'en régaler. Un projet en tout cas conçu dès le départ comme très participatif, puisque nourri par les réflexions d'un atelier de spectateurs au Merlan. Benjamin, tu nous en dis deux mots ?
Donc j'avais pas tellement envie d'interroger les gens sur la musique contemporaine, ça c'est une simplification de communication qui aide à saisir le projet, mais c'était beaucoup plus petit que ça comme ambition, c'était juste de dire, mais moi, la musique que je fais, j'ai l'impression qu'elle intéresse pas grand monde, c'est toujours difficile d'en parler, donc c'était plus partir d'un point de vue assez minuscule en fait, qui est, voilà, moi j'habite ici, je fais ça, et c'est drôle parce que finalement j'ai l'impression que ça n'a aucun écho ni aucune espèce d'importance. Voilà. J'avais plutôt envie de partir de ce constat-là. Et du coup, assez rapidement, je me disais, mais si c'est moi qui réfléchis tout seul et puis que je commence à écrire tout ce que j'ai envie de dire sur cette musique et sur le pourquoi je la fais, sur le comment elle est, c'est vraiment très très auto-centré et ça me semblait beaucoup plus intéressant de faire déjà en préparation du spectacle une démarche vers les gens et d'aller leur poser directement la question. C'est finalement ce qui était le plus simple. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé au Théâtre du Merlan de constituer un groupe d'auditeurs le plus varié possible. Et donc j'ai confronté ma musique, mais aussi celle de mes contemporains, que ce soit des amis ou des grands compositeurs, à ce groupe de gens pour qu'ils mettent en mots leur perception de cette musique.
Une musique qui est, tu le disais toi-même, peu connue, peut-être parce qu'elle n'est pas assez diffusée, et on en porte peut-être une part de responsabilité, toutes les radios, de peut-être pas suffisamment diffuser ces formes et ces esthétiques musicales-là. Des musiques qui sont peut-être aussi difficiles à comprendre parce qu'elles sont justement nouvelles, et qu'on a un peu tendance en musique à aimer ce que l'on connaît déjà un peu, à aimer une musique dans laquelle on peut reconnaître quelques motifs, quelques notes, quelques rythmes qu'on a déjà entendus. Et au fond, comme si la musique était désagréable à l'écoute, si elle est vraiment novatrice. C'est un peu curieux.
Oui, c'est vrai, je m'étais pas formulé la chose comme ça, mais c'est vrai que ça rejoindrait le fait que, par exemple, certaines musiques traditionnelles, et je parle pas de choses qui se font en world music, mais de vraiment des musiques, on peut trouver les disques chez Okora, etc., qui sont pas du tout contemporaines, puisque ça fait des fois 200 ou 300 ans ou plus qu'elles existent telles quelles, peuvent paraître aussi complètement déconstruites, et donc faire appel au même sentiment de rejet de la part des auditeurs. Donc c'est vrai, il y a certainement cette histoire de reconnaissance et de connaissance. En même temps, moi, c'est une question que dans mon travail, j'ai entre guillemets résolu, en considérant que je travaillais avec le son dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien un travail sur le son composé, peut-être fabriqué même électroniquement, mais aussi avec finalement toutes les références sonores que les auditeurs ont en tête. Donc, dans mon travail, ça ne me dérange pas d'avoir certaines références à la musique tonale ou au rock, et justement d'écrire avec ça. C'est-à-dire non pas d'en faire un habillage multicouche pour que ce soit plus facile à appréhender, mais de jouer sur les bascules de perception par l'auditeur d'un état de perte, justement, à un état de reconnaissance, puis un nouvel état de perte. Et en fait, j'aime beaucoup ce trajet que j'imagine que l'auditeur a, et que moi j'ai en tout cas quand je découvre des musiques vraiment contemporaine et que je ne connais pas avant, c'est cette idée d'être forcé de trouver un sens et de le construire soi-même. Mais pour ça, je trouve cette expérience esthétique très intéressante, mais je trouve aussi que le compositeur, s'il le souhaite, peut prendre une responsabilité à cet endroit-là. C'est-à-dire à quel moment je guide, à quel moment je perds, à quel moment je fais attendre exprès, à quel... Voilà.
Il y a des moments où tu composes et puis des moments où tu décomposes, où tu cesses de composer des formes trop rigides et au contraire, tu laisses peut-être place à des formes d'improvisation. Il y a une place dans l'improvisation dans ton jeu ?
Oui, ça dépend des projets. L'improvisation intervient à plusieurs endroits. Comme je disais tout à l'heure, je travaille souvent sur des projets où la musique n'est pas le seul langage, même si je considère que c'est le métier du compositeur qui régit tous ces langages. Eh bien, forcément, ces dispositifs-là ne peuvent pas être complètement éprouvés sur le papier et il y a besoin d'un temps d'improvisation pour les appréhender, pour dégager des matériaux. Voilà. Ça, c'est le premier endroit où l'improvisation intervient. Et ensuite, c'est vrai que dans la présentation au public, dans ce moment public, même si, par exemple, comme je l'entends, est extrêmement fixé, extrêmement écrit, j'aime avoir au moins la possibilité de sortir de cette écriture pour pouvoir réagir à quelque chose qui se passe, qui soit extérieur, ou une nouvelle idée musicale qui me viendrait dans le moment du jeu.
Concrètement, comment ça se passe pour cette pièce musicale, comme je l'entends ? Tu es seul en scène, il y a un dispositif scénique, il y a une spatialisation du son.
Alors, je suis seul en scène, mais je suis déjà avec mon complice Laurent Cellier, qui est à la fois l'ingénieur du son de ce spectacle, mais aussi encore un nom qu'il faudrait inventer. À l'IRCAM, on appelle ça assistant musical. Bon, le mot assistant n'est pas très joli non plus. Mais c'est un complice qui est hors jeu, mais qui est dans une relation de jeu avec moi. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont écrits, par exemple, sur bande, sont envoyés à des moments précis, sur des décisions précises musicales. Et il y a une part de jeu et de réponse qui se fait entre moi sur le plateau et lui en régie. Et le dispositif, c'est une guitare sur scène qui est amplifiée et transformée à certains moments, une couronne de haut-parleurs autour du public qui est un peu l'espace résonnant, en fait. Voilà, c'est une espèce d'espace sonore imaginaire. Et par contre, à l'opposé de ça, au-dessus du plateau, des petits haut-parleurs très précis et très présents dans lesquels parlent les gens de l'atelier et ils parlent de la musique.
Comme je l'entends, une proposition de Benjamin Dupé, c'est le 1er décembre à 20h30 et le 2 décembre à 19h30 au Merlan, scène nationale à Marseille. Toutes les infos et réservations au 04 91 11 19 30. Et ces deux concerts sont précédés d'une conférence dialogue avec la philosophe Angélique Delray. C'est le 27 novembre à 19h et c'est à Musica 13, rue Grignan.